Radio Grand Ciel présente Histoire et mémoire, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Jean-François Roland. Au micro, Christiane Blain. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Bertrand de Pompignan. Quand je l'ai rencontré, il m'a conté ses souvenirs d'enfance. J'ai voulu en savoir plus et vous faire partager, chers auditeurs, ces moments absolument passionnants. C'est pourquoi je le remercie d'avoir accepté mon invitation. Bertrand de Pompignan, bonjour.
Bonjour Christiane Blain.
Alors, c'est de votre enfance, surtout peut-être auprès de votre grand-mère, qui vous ont vraiment, vraiment marqué. Alors, j'aimerais savoir quand ça a commencé et quel âge vous aviez quand vous avez déjà pensé que la guerre était déclarée.
J'avais 5 ans, juste 5 ans, même pas d'ailleurs, en septembre 39, quand nous étions chez ma grand-mère qui venait d'emménager depuis 3-4 ans dans une grande maison près de Château-du-Loir.
Cette maison a un nom,
La Motte.
C'est un grand château.
C'est une grosse propriété du XVIe siècle, remaniée, fortement remaniée au XIXe.
Et votre famille a toujours vécu là?
Non, nous étions là. Cette maison avait été achetée très récemment, 4-5 années précédemment, parce que ma famille est originaire des Antilles et ma grand-mère est veuve, donc a quitté la Martinique pour s'installer avec sa famille et ses enfants dans les années 25.
Donc elle avait combien d'enfants
Elle a eu 9 enfants.
C'est ça, voilà. Je tenais à le souligner parce que donc elle était seule avec 9 enfants.
Elle était seule avec 9 enfants à l'époque, en 39, ils étaient tous majeurs, mariés, etc. Enfin, elle avait déjà, sur les 9, elle en avait perdu 3 déjà. Donc, mais elle voulait sa grande maison pour pouvoir rassembler sa famille. Et peut-être présageait-elle que l'époque allait être difficile.
Oui. Et donc, beaucoup de petits-enfants venaient chez 40. Elle. Combien ?
Nous sommes retrouvés pendant la guerre. Parfois plus que 40 dans cette maison.
Oui, ça je crois que c'est indispensable de le souligner pour mieux comprendre souvenirs qui sont liés à l'intimité familiale.
Tout à fait. Donc nous étions en septembre 39, mon père qui était officier de marine venait de changer d'affectation et quittait Paris pour rejoindre le sous-commandement d'un bateau à Toulon. Nous étions tous réunis pour quelques jours en septembre à la Motte. Et bon, je me souviens, c'est l'une de mes premières images, je me souviens de mon père recevant sa lettre de mobilisation, enfin de convocation. Donc dans les 24 heures, il a pris sa voiture et il est descendu sur Toulon. Et il nous a laissé, ma maman a attendu quelques temps que le déménagement passe de Paris à Toulon. Et puis, probablement vers le 15 octobre, nous sommes descendus d'abord à Toulouse, où là, j'ai un autre souvenir très fumeux.
Là, vous êtes avec votre mère.
Ma mère et 4 enfants.
Sur
les 5 qu'elle avait à l'époque.
Voilà.
Et à Toulouse, j'ai eu mon premier souvenir d'un gros mouvement dans les environs de Toulouse, d'un gros mouvement de blindés français qui remontait alors à l'époque sur le nord. Nous nous sommes installés donc à Toulon au mois de novembre 1942.
Vous vous souvenez de la maison ?
Comment ?
Vous vous souvenez de la maison ?
Oui, je me souviens très bien de la maison. C'était une belle maison. Elle avait un petit air, elle avait une petite tour. On l'appelait un peu le château dans
la région.
C'était une maison à une vingtaine de mètres de la place de Mourillon, Cette maison a été détruite en 1944, mais bon, elle était
entièrement
grande.
Détruite.
Oui, je crois, oui. Bon, c'était une maison très agréable, finalement assez agréable, grande, mais bon. Pas d'image. La seule image que j'ai, c'est amusant d'ailleurs, je crois avoir vu pour la première fois un hélicoptère de marine, un hélicoptère donc entre 39 et 40. Il ne devait pas y en avoir beaucoup à l'époque.
Non.
Hein, et on m'a expliqué à ce moment-là, je me souviens, mon père m'expliquant un peu ce que pouvait être un hélicoptère. Ça, c'est la seule image. Je crois qu'elle date de 40 ou de 41, mais plutôt de 40, je pense. Et puis, début juin, le 10 juin 1940, Mussolini a trouvé bien de déclarer la guerre à la France en 1940. Il a attendu que la France soit à genoux pour lui lancer un poignard dans le dos. Et le 12 juin, mon père était sur son bateau. L'escadre faisait mouvement, enfin faisait des manœuvres en Méditerranée. Et mon père a reçu l'ordre d'aller bombarder Gênes. Et il était embêté, il était commandant en second. Il a été chercher son commandant qui était fatigué, qui se reposait dans sa chambre. Et bon, ils sont montés tous les deux sur la coupée du bateau, ils se sont mis à prendre des ordres. Le bombardement a été assez difficile, puisque un obus de 155 a transpercé la salle des machines, et il y a eu 12 blessés qui n'ont pas survécu. Qui n'ont pas survécu à l'hôpital après, deux jours après.
Ça, c'est votre père qui vous l'a raconté.
C'est mon père qui nous l'a raconté au retour. Et ben, ils ont réussi à ramener le bateau à Toulon. Et à la suite de cela, le bateau a été décoré, mon père a été décoré et le commandant du bateau a été décoré. Et moi, j'ai une grande satisfaction parce que 12 ans après, 13 ans après, en 1953, je faisais un stage dans la marine. J'ai visité, j'ai passé une après-midi complète sur l'Albatros, qui était à quelques mois de sa réforme définitive, et j'ai vu la plaque sur le bateau
qui
rappelait le souvenir du bombardement de Gênes, qui a été un épisode marquant de la flotte française pendant la guerre 39-40. Le 18 juin, comme tous les Français, personne n'a entendu l'appel du 18 juin du général de Gaulle. L'ensemble de la marine française à l'époque était très loyaliste au maréchal Pétain, d'autant plus que nous étions en zone sud, et que malheureusement, quelques jours après, au mois de juillet 40, l'épisode très très malheureux de Marcel Kébir a beaucoup marqué les officiers, la marine française à Toulon. Moi, j'ai le souvenir qu'un de mon camarade de classe, celui qui était à côté de moi sur le banc de l'école, son père était sur un bateau et a été tué à Marcel Kébir. Et c'est un premier deuil qui nous a beaucoup marqué. Parce que,
et vous aviez peur aussi pour votre père?
Non, j'avais, mon père était à Toulon, mais là, Marcel Kébir, c'était donc... c'était
après.
Ça, oui,
mais vous aviez peur.
On avait comme un sentiment de peur. La guerre n'était pas très sensible à Toulon. La guerre n'était pas très, très sensible à Toulon. Une des choses sensibles, après, pendant 40, 41, 42, c'était le ravitaillement, qui était épouvantable, etc. Oui. Très, très, très compliqué. Avec ça, il y a eu, mais tout le monde le sait, les cartes J1, J2, J3, de rationnement, où on avait droit à ceci, on avait droit à cela. Les biscuits vitaminés qu'on nous donnait en titre de compensation. Je me souviens que ma mère, vous avez des queues absolument partout, ça, ma mère partait avec 3 ou 4 enfants et les répartissait.
Et les répartissait
selon les différents magasins pour faire la queue. Elle ramassait ça. Parfois, nous arrivions, c'était notre tour et nous ne savions pas du tout ce qu'il fallait acheter. Bon, c'était donc assez difficile. Je me souviens qu'un jour,
Votre père revenait de temps en temps?
Non, mon père était sur un bateau, donc il revenait assez souvent. Il était à ce moment-là, jusqu'en juin 1942, il était embarqué sur l'Albatros, mais qui était basé à Toulon. Donc, il était relativement souvent à la maison. Il n'était pas en dehors. En juin 42, mai-juin 42, j'ai eu la première expérience. Moi, maman attendait son sixième enfant. Donc, mes parents ont pensé qu'il était bon que mes deux sœurs et moi, nous éloignons de Toulon, et donc mon père nous a conduits dans la Sarthe, donc chez ma grand-mère à La Motte. Et c'était la première traversée de la ligne de démarcation.
Et vous aviez peur ou vous étiez content?
On avait peur. On a pris le train, donc on a changé à Lyon. Puis à Lyon, on a attendu, etc. Puis on a pris le train qui fait Lyon-Tours. Et là, on prend après celui qui fait Tours-Le Mans. Et à Lyon-Tours, c'était la ligne de démarcation, c'était Vierzon. Et Vierzon est resté pour moi toujours, j'ai toujours demandé, cette ville était marquée par le contrôle. Et j'avoue que on a vu les soldats allemands percer les bagages avec les baïonnettes voir s'il n'y avait rien dedans. C'était violent, c'était assez violent.
Vous quittiez votre mère? Vous étiez triste de quitter votre mère aussi.
Oui, puis ma mère est restée à Toulon, elle a accouché du 6e à Toulon. Nous sommes arrivés chez ma grand-mère, et ça, donc j'ai fini l'année scolaire à la petite école de Flé.
Alors il y avait d'autres cousins qui étaient là?
Ils n'étaient pas encore arrivés, ils étaient encore à Paris, ils sont arrivés un peu plus tard pour le mois de juillet.
Donc là vous étiez tout seul comme enfant?
J'étais tout seul avec mes sœurs, oui, mes deux sœurs. Ah. Après le mois de juillet on a fait le plein, nous sommes revenus à Toulon vers le mois de septembre, les choses bien regonflées, enfin, à la campagne on avait du beurre, on avait du lait, on avait des poulets, donc on avait repris quelques forces.
Alors qu'à Toulon c'était terrible.
Ma grand-mère était venue nous voir en 41, peut-être en début 42, elle traversait, était descendue à Toulon, passait...
C'était une forte femme,
passait une quinzaine de jours chez nous. Et donc, elle nous avait offert un dîner dans un restaurant du coin, un petit restaurant du coin, qu'elle avait soudoyé pour avoir un plat spécial. Donc, il y avait du marché noir. Mon père se refusait à toute action de marché noir. Mais ma grand-mère, j'ai mangé des pintades. C'était la première fois que je mangeais une pintade. J'étais très content. J'ai le souvenir de la pintade que j'ai mangée ce jour-là.
Oui, parce que vous étiez jeune quand même.
J'avais 6 ans.
6 ans, oui.
Et puis, nous arrivons peut-être en novembre 42. Les choses sont... Mon père quitte le commandement de contorpilleur Albatros et prend un poste à terre à Toulon, vers le mois de septembre. Le 6 novembre 42, les troupes alliées débarquent
Afrique.
à Casablanca, à Oran et à Alger.
Nord,
c'était l'opération troupes en Afrique du Nord. J'ai essayé, je cherchais un peu mes souvenirs, de faire le point sur cette opération troupes et sur l'attitude des Français en Afrique du Nord à ce moment-là. C'est vraiment extrêmement complexe. On a énormément de mal à savoir comment... Il y avait un point important, c'est qu'un élément important peut-être pour la suite, c'était que l'amiral Darlan, qui n'était plus chef de gouvernement, mais qui était chef des forces militaires générales, avait été appelé au chevet de son fils qui était mourant à Alger. Depuis le 20 octobre, Darlan était auprès de son fils à Alger, et il essayait alors de renouer, grâce au contact que son fils avait eu avec le consul américain, il essayait de renouer quelques contacts avec les Américains, avec les Alliés, c'était assez compliqué.
Mais par exemple, alors, quand vous étiez enfant, vous ne
compreniez
pas.
On entendait des messages.
Que vos parents vous expliquaient
parfois?
Et votre grand-mère?
Non, ma grand-mère, elle était dans la Sarthe.
Mon père, à Toulon. Quand vous étiez, par exemple...
Oui. Je ne sais même pas s'ils comprenaient tout très bien, d'ailleurs. C'était très... D'abord, parce qu'ils avaient été marqués par leurs opinions politiques propres, déjà. Enfin, je ne sais pas s'ils arrivaient à analyser convenablement les événements, d'ailleurs.
Ah oui. Et vous avez discuté de ça, après, avec vos parents?
Non, j'ai perdu mon père très, 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 très vite c'était assez difficile de bien se rendre compte des choses.
Mais écoutez, si vous le voulez, nous allons marquer une pause musicale. Je suis toujours avec Bertrand de Pompignan et il évoque ses souvenirs d'enfance au cours de la Seconde Guerre mondiale. Alors nous en étions, si je ne m'abuse, au sabordage de la flotte, c'est bien
Oui,
ça?
oui.
Nous sommes le 27 novembre 1942 et vous vous souvenez d'avoir
Oui,
entendu
c'était
votre
très.
famille évoquer cela?
Oui. Donc les Allemands ont envahi la zone sud dès le débarquement américain en Afrique du Nord et ils ont tourné autour de Toulon jusqu'au 25, 26. 26 novembre, et le 27 novembre au matin, il y a eu, je me souviens très bien avoir vu les avions allemands larguer leurs mines pour barrer l'estuaire de Toulon. Nous avons su relativement vite d'ailleurs, je me souviens pas, je sais pas comment, par quel moyen, mais nous avons su qu'il y avait quelques bateaux, il y en a eu 6 au total, 5 sous-marins et un petit bateau d'escorte, qui ont réussi à passer à travers les mines. Et puis, bon, on a tendu des pas. Il y avait les troupes sont passées au pied de la maison. Et je me souviens bien de... Maman avait son filleul qui était élève à l'école navale de Toulon, à l'école navale qui avait été transportée de Brest à Toulon.
J'imagine.
Et l'école navale est passée auprès et maman a salué, a reconnu son filleul là-dedans. Donc l'école navale donc est passée d'un bâtiment, d'un fort, d'une caserne à une autre caserne. On a attendu à partir de 9-10 heures les déflagrations pendant toute la journée.
Vous aviez peur?
On avait peur, on avait peur. C'était,
vous
on ne sait pas
étiez
très
à
bien.
La cave?
On était à la cave. Mon père n'était pas rentré la veille de son bureau, il avait été resté.
Oui.
Il était resté. Donc on était un petit peu inquiets. Et puis, on savait que c'était le sabordage. On avait entendu parler des possibilités de sabordage, et ça, on savait.
Ça devait faire un bruit terrible.
Ça fait du bruit, c'était pénible. Je ne sais plus quand, mais je sais que quelques jours après, j'ai voulu aller à la plage. Et bon, elle était noire, elle était pas question de, elle était pleine de cambouis. C'était la première marée noire que je voyais.
Ah ouais.
Puis, 3-4 jours après, nous avons pris le bateau-bus pour aller du Mourillon, qui était le quartier résidentiel ouest est de Toulon, à Tamaris, qui était le quartier résidentiel ouest de Toulon, après la Seine-sur-Mer, et où habitaient mes grands-parents. Et là, on a traversé et on a vu la... Moi, j'ai vu, il y avait plus de 90 bateaux coulés et couchés sur le flanc. Et c'est une image qui reste énormément. Je l'ai constamment en mémoire. Et le point que lorsque je me promène en rivière et que je vois un poisson mort, automatiquement, j'ai l'image du sabordage de la flotte, qui était une flotte extraordinaire. Nous, enfants de marins, été élevés dans l'orgueil de cette marine qui est extraordinaire en 39-40. C'était la deuxième marine mondiale.
Ouais.
Et voir
ce
trésor s'effondrer, c'était relativement dur. On a 7 ans, on a 8 ans, on en est très conscient.
Votre père devait être...
Mon père est rentré 3-4 jours après. Il a été démilitarisé, il s'est retrouvé chômeur, quoi. Il s'est retrouvé chômeur... Enfin, nous sommes rentrés et finalement, bon, il a travaillé, il a eu 2 emplois après, mais pratiquement 4 ans après, il en est mort. Quoi.
Ah.
Et très jeune.
Ça
l'avait marqué profondément.
Il
était marin, il n'a pas du tout retrouvé son équilibre, son équilibre physique et moral. Et nous sommes rentrés à ce moment-là en mars-avril 43. Mars-avril 43, nous avons quitté Toulon, nous n'avions plus rien à y faire, nous avons quitté la belle et grande maison que nous avions au Mourillon. Et nous
sommes avez vendu cette maison?
Elle n'était pas à nous, elle était louée. Elle était louée et nous avons appris un an après qu'elle avait été
détruite
lors de l'attaque de Toulon, prise de Toulon. Et nous sommes montés donc chez ma grand-mère, où nous avons retraversé donc la ligne de démarcation à Vierzon.
Donc votre mère avec ses enfants?
Avec maman, ses enfants.
Tout le monde chez votre grand-mère.
Mes deux frères aînés étaient déjà partis à droite à gauche. Et donc maman et quatre, peut-être mon père, je ne sais plus si nos parents étaient, je ne sais plus très bien comment ça s'est passé. Enfin, je sais qu'on a traversé et nous sommes arrivés chez ma grand-mère.
Là, vous deviez vous sentir mieux.
On s'est senti mieux, on était là, à la campagne, on était très, très, très dégagés, de tout, très, très isolés. La guerre, il n'y avait pas... On n'avait pas eu tout ça. Ma grand-mère, je peux raconter, j'ai oublié de dire qu'un des souvenirs que nous avons marqué, en revenant chez ma grand-mère, ça me souvient, c'est que ma grand-mère avait reçu, après juin 40, successivement, des réfugiés, des troupes françaises. Elle avait donc accueilli des troupes françaises, très bien. Elle avait accueilli des réfugiés qui venaient du Nord, je crois même, qui venaient de ma mère.
Et est-ce qu'elle a dû aussi...
Et puis, un jour, elle a vu arriver une colonne de blindés allemands. Et sa gouvernante lui a dit, le colonel allemand voudrait vous voir. Ma grand-mère lui a dit qu'il attende un peu. Elle est rentrée dans sa chambre, elle s'est parée de ses plus beaux bijoux, elle s'est installée après au bout du salon dans un grand fauteuil faisant figure de trône, et elle a fait venir le colonel en lui disant « J'ai cru comprendre que vous désirez occuper toute la maison. La seule chose que je vous demande, je ne peux pas, je suis obligé d'obéir, la seule chose que je vous demande, c'est de ne pas occuper la chambre ici, qui est au-dessus d'ici, qui est celle de mon fils et de mon fils, qui est père de trois enfants et dont je suis sans nouvelles depuis 6 mois, et depuis 4 mois. Et son fils était prisonnier, avait été fait prisonnier, et elle ne le savait pas encore officiellement. Le colonel d'abord n'a pas fait le salut nazi, et ensuite a obéi, et la chambre de mon oncle a été respectée.
Mais sinon, toutes les chambres étaient occupées par...
Toutes les chambres étaient occupées par tout à droite.
Et vous-même, alors, dans la maison...
Il était occupé 2 semaines, 3 semaines. Oui. Quand nous sommes arrivés, la maison était...
Libérée.
En 1942, était totalement libérée. Mais elle était pleine de la famille. On était à ce moment-là très, très nombreux. L'été 43, nous étions très, très nombreux. Il y a une petite photo de famille qui a été prise le 15 août 43. Nous sommes plus de 40, 45.
Oui,
45 sur cette photo de famille. Quand même. On était 7, 5, 6, 7 dans une chambre, parfois. Et en octobre 43, on m'a mis interne. J'avais donc...
vous n'alliez pas à l'école.
J'allais à l'école.
C'était votre mère un peu qui vous s'occupait?
Non, c'était moi-même, c'était tout seul. Et puis j'allais à l'école communale,
à l'école des villages.
Quand on avait le temps, puis on prenait quelques leçons avec l'instituteur, on se débrouillait. Et puis
Vous saviez lire quand même?
Oui, je savais lire. Moi, j'étais assez bon en maths, en calcul déjà à ce moment-là. En novembre 43, on m'a mis pensionnaire à Pontoise, dans un collège qui était assez agréable, théoriquement. J'avais juste 9 ans. Mais très vite, les bombardements, Pontoise était très secouée par les bombardements, à chaque fois qu'il y avait un bombardement, le père surveillant général se promenait avec sa petite clochette. Nous sortions, nous mettions nos matelas, nous prenions notre matelas, nous mettions nos matelas sur nous pour nous protéger des éventuels éclats d'obus, et nous partions 300-400 mètres comme des escargots, le matelas sur nous.
Mais
sur
alors, nous. Dans une cave
Là, il y avait un abri, tout ça, et... grâce à notre matelas, nous continuons peut-être parfois à dormir, puis on récitait des paternosters et des Ave Maria en quantité pour nous protéger. Et puis,
il n'y a rien eu, rien ne s'est passé.
J'ai un autre souvenir, lui, très dur, parce qu'un jour, nous allions en rang au réfectoire. Nous avons vu une dizaine d'Allemands couper nos rangs. Et ils ont été dans une maison un peu à côté, à 30 mètres plus loin que la maison où nous couchions. Et ils ont été ramassés. Un garçon qui préparait HEC interne, ils l'ont emmené, et nous avons su après qu'il avait été fusillé.
Quelle horreur.
Pour des faits de résistance. Et j'avoue que l'image de ces 10 Allemands qui traversent le rang et qui vont à côté chercher ce garçon que nous connaissions, c'était l'un des grands frères. Il y avait beaucoup d'amitié entre les 30 enfants qui étaient en en 7e, 8e, et les 15 grands qui préparaient HEC, il y avait beaucoup d'amitié, on les connaissait tous.
C'était un peu vos tuteurs.
C'était les grands frères. Oui. C'était les grands frères. Et c'est un souvenir. Et là, la maison, enfin, qui s'appelait la ferme où ils habitaient, où ils dormaient, s'appelle maintenant la maison Éric de Martinpré. Enfin, elle a pris le nom du truc. Après, à Pâques 43, les bombardements étaient suffisamment importants pour que les collèges soient évacués. Et nous sommes rentrés donc dans la Sarthe, à la Motte. Et je me souviens, à la gare de Chartres, le train était stationné. Et puis à côté, sur le quai, il y avait un autre train, un train qui partait vers l'ouest, qui contenait des soldats allemands. Ils avaient 16 ans, ils avaient 17 ans.
Ah, oui.
Et moi, jeune, j'étais frappé par la jeunesse de ces soldats allemands.
Eh bien, je crois que nous n'allons pas poursuivre parce que le temps passe trop vite. Mais un grand merci, Bertrand de Pompignan, parce que je crois que nos auditeurs auront aussi retrouvé leurs souvenirs à travers les vôtres. Je vous rappelle que vous pouvez nous réécouter sur notre site internet www.radiograndciel.fr. Merci, Bertrand de Pompignan.